féministe et militante pour la place des femmes et des personnes LGBTQ+ dans le sport, avait inauguré le premier match en compagnie de Jenna Hayford en déposant un palais sur la glace avant le premier match de l'histoire.
Et à tous, vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Mon nom est Nelson, je suis accompagné de mes deux comparses habituels, César.
Allô Nelson,
comment vas-tu?
Oh, ça va bien. Et toi?
Moi aussi, ça va bien.
Maintenant,
avec vous deux.
La question suivante est: Marc-André, comment ça va?
Moi, ça va très bien. I'm on fire!
Ouais. Es-tu reggae?
Es-tu bien? Je danse le reggae. Est-ce que vous m'avez vu danser le reggae en studio?
Je t'ai vu, puis c'était quasiment gênant.
Ouais?
Non, c'est pas vrai. Tu danses vraiment bien, le reggae. C'est comme un naturel, hein?
Ah, moi, je suis Rastafari.
Où t'as appris à danser le reggae, Marc-André?
Pas en Jamaïque, je suis pas allé.
T'es pas allé en Jamaïque?
En Salvador de Bahia, au Brésil. Du Brésil.
Bon,
tout
encore
bon, légal. Brésil, légal. Hein, Brésil. Gauche, tout du Brésil.
OK, reviens au reggae. Concentration, Marc-André. Là. Bon, c'est ça.
Oh, c'est ça qu'on fait au reggae.
Yerba time.
Yerba time.
Yerba mate time.
Miller time. You know what I mean?
Hey, là, je vais ramener l'émission à l'heure. Je suis désolé, les gens à la maison qui nous écoutent en ce moment. Mais.
Oui.
De quoi on parle?
On parlait de Pierre-Paul Jack, qu'on a déjà fait jouer, que j'adore. L'album s'appelle tout simplement Kingston Karma.
Kingston, parce que c'est...
Fait en Jamaïque.
C'est ça, c'est la ville de Kingston.
Puis la tune, c'est « Je sais pas jouer ». Autre chose que du...
Reggae!
Yeah, man.
Et
Marc-André... Tout ça fait découvrir, peut-être. Tu le connaissais peut-être pas. Hein?
Non, aucune
idée. C'est un
trio français, non?
Non.
Hein? Ouais, Pierre-Paul Jack?
Non. Oui, Pierre, c'est pas trois Jack, gars. C'est vrai, ouais. C'est la Trinité, c'est Dieu. C'est les apôtres du reggae.
Non, c'est un jeu de mots.
De Bermude.
C'est un monsieur.
Oui, c'est vrai, c'est un jeu de mots. Explique-le, c'est bon, ça.
C'est j'ai rien d'autre à dire que c'est un jeu de mots. Et toi, explique-le.
C'est comme dire monsieur, madame, tout le monde. Pierre, Paul, Jacques, c'est comme...
Ah, puis l'expression Pierre-Jean-Jacques.
Pierre-Jean-Jacques, ouais. Pierre-Paul-Jacques.
Ouais.
Ouais.
Mais c'est comme un surnom. Ouais, c'est ça.
Mais qu'est-ce c'est que ça. Tu peux dire, ce gars-là, c'est un francophone. C'est un homme blanc qui joue du reggae comme... Comme Gainsbourg était joué du reggae.
Aux armes, etc.
Exactement.
Album classique.
Classique des classiques. Mais je pourrais te dire que c'est comme son fils spirituel. Pas autant. Il y a pas, je ne dis pas qu'il a le talent de Gainsbourg, c'est de top. Ouais. Mais ce gars-là, il faisait du hardcore, du punk.
Oh.
Puis à un moment donné, il a découvert le reggae comme ben du monde. Puis les Clash, c'était eux qui ont, tu sais, ils étaient en Angleterre, ils faisaient du punk, mais maintenant ils ont tombé dans le reggae.
Bob Marley aussi, en Angleterre. Qui...
Ouais.
Fait, ça, ce gars-là, il représente le reggae francophone des années 90. Il était venu au Québec, au Francofolie, un spectacle extérieur, gratos, et c'est là que je l'ai découvert, et j'ai accroché. Et super belle attitude. Et il y a le fameux trio de la Jamaïque, la section rythmique de Sly and Dumbar.
Sly and Robbie?
C'est Sly and Robbie.
Oh,
ouais.
Snap!
Ouais. Fait qu'il est allé chercher les tops du top. Et il est allé, regarde la photo de l'album, c'est Tough Gong Records, qui est le fameux studio. Où est-ce que...
La famille de Bob Marley.
Puis tous les albums classiques reggae de la Jamaïque ont été enregistrés.
Oh, wow!
Fait que tout ça pour Pierre-Paul Jack, qui torche. Il continue à faire des albums. Ça, c'est son premier album. Mais c'est ça. Tu sais, à part Serge Gainsbourg, il n'y a pas beaucoup de reggae-man français, blanc, qui ont su tirer leur carte du jeu. Puis, tu sais, il a joué avec les tops du top, là, ce gars-là.
Mm-hmm.
Puis après ça, il a fait du voilier, il s'est exilé, on a déjà parlé. Mais c'est comme un aventurier, un ex.
Mais il n'y a pas des Québécois qui ont fait du reggae... Te souviens-tu du groupe Rude Luck?
Ouais, ben ouais.
Avec Luck Merville?
Ouais.
Ben lui, tu vas dire, il est haïtien. C'est pas...
Ouais, mais c'était pas du...
Reggae,
c'était
mais...
C'était du pop un peu plus.
Pop, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est vraiment cool, ça.
C'est cool, là, ça sonne, hein? Ouais. Ça commence bien la journée. Mais il me semble que c'est Sunshine, là, ça va tout faire.
Ben, il y a quand même une bonne histoire derrière ça.
Ouais.
Parce que c'est comme Serge Gainsbourg, aux armes, etc. Comme, c'était-tu le premier français à faire un album? Dans le temps, c'était la découverte de reggae.
Ouais.
Mais il est allé s'infiltrer avec une valise de cash à la clique de Bob Marley pour faire un album de reggae avec les instruments peak, parfait. C'était comme le meeting of the minds au parfait moment pour faire un album que tu peux plus le recréer.
Non.
Puis...
La Marseillaise, il a joué dans la tradition française, puis il a mis ça.
Voilà, il y a toute la controverse avec aux armes, etc., mais
ouais.
Il y avait Rita Marley, il y a les Three Eyes comme background singer qui chante aux armes, etc.
Ouais, tu peux pas avoir plus de crédibilité que ça.
C'est
là.
Comme...
T'es dans le bastion du reggae, là.
Ouais, c'est le pic, c'est le mecca, genre, en tout cas, Mais
c'était pas made in France, c'était made in Jamaica. Un Français qui l'a fait.
Mais quand tu l'analyses en retrospect, tu as Serge Gainsbourg, que okay, tu t'attends à l'album Reggae, il va chanter. Non, lui, il va juste parler à Serge Gainsbourg. Et l'album va très bien avec le gros bassline. Puis,
comme du spoken word.
Ouais, spoken word, reggae, puis ça a juste fonctionné.
Hey, en parlant de spoken word, autre chose, Lulu, Lucien Francœur.
Oui, le groupe Autre Chose.
Autre Chose, oui. Je parle d'Autre Chose. le groupe s'appelle Autre Chose. Merci de me rappeler de me remettre à l'ordre. Sinon, il n'y a personne qui me suit.
Il y a des jeunes, des étudiants qui nous écoutent.
Ils sont mêlés, mêlés.
Ils sont l'endemain de la veille. Puis,
ils sont mêlés, ils ont pris du Zion.
Ma génération est très confuse, mais là, j'ai compris.
Oui, Autre Chose, ils ont fumé du Zion. Autre Chose, c'est Lucien Francœur qui faisait du spoken word, la Beat Generation, tout ça. Il y a un film qui est sorti.
Oui.
Je sais pas si tu vas en parler. C'est sa fille.
Je l'ai pas vu.
Non, moi non plus, il vient de sortir. Ouais. C'est sa fille qui fait un documentaire sur son père avec lui. On la voit dans le documentaire, le peu que j'ai vu, les extraits.
Ouais.
Et ils s'en vont faire un road movie en Californie parce que lui, il a eu une grosse, un gros trip de Doors. Un trip californien de musique, de Beat Generation, de
gang. Dans les années
70.
70,
oui. Et puis un peu.
Oui, fin 60.
Bohème, tout ça.
Mais ben, j'ai seulement vu la bande-annonce, puis ça a l'air vraiment intéressant. Ouais. Surtout, tu sais, moindrement, on connaît un peu Lucien Francœur puis son parcours, mais même si on connaît pas Lucien Francœur, je pense que ça a l'air d'un très bon documentaire. Exact. Parce qu'effectivement, ça a l'air... C'est un parcours personnel de sa fille qui veut comme faire revivre à son père des souvenirs de sa jeunesse. Puis qu'aujourd'hui, ben, le monsieur, il est âgé.
Oh ouais.
Pis, donc, ça a l'air vraiment touchant. Ça a l'air bon.
Puis qu'est-ce qui fait le charme, c'est que sa fille, de la manière qu'elle en parle dans les entrevues, c'est que ça brise, admettons, la cassette que son père serait habitué de dire à un journaliste ou à quelqu'un d'autre. C'est là, vrai. Elle connaît. Là. Elle connaît le personnage. Excusez de dire ça, là, mais le personnage qui est sur scène, le poète, le prof, tout ça, entre guillemets, et le père, la vraie personne. Fait que elle va jouer dans le mythe du père, Lucien Francœur, Lulu, le autre chose, tout ça, le freak de Montréal.
Oui.
Mais, hey, fin de la parenthèse, là, je viens de flasher totalement. des hommes blancs qui font des albums reggae, on n'a pas besoin d'aller très loin non plus, on n'a pas besoin d'aller en France avec Pierre-Paul Jack qu'on a fait jouer ou M. Gainsbourg. C'est que Claude Dubois a fait un album reggae.
C'est vrai.
Puis il renie pas pour la musique, mais pour la production. Je pense qu'il aimait pas la production. Okay. Puis moi, je le cherche souvent dans. Tu sais, j'ai d'autres Dubois, mes parents ont d'autres Dubois, mais cet album-là, on dirait qu'il est plus dur à trouver. Je dis pas, tu sais, je cherche pas comme un malade, mais je tombe jamais dans la bine comme « Oh, c'est l'album reggae de Claude Dubois, je vais lui donner une chance.
Ouais. »
Je pense qu'il y a un hit dessus que le monde connaisse.
Ouais.
Le reste, je sais pas à quoi m'attendre.
J'imagine que c'était enregistré dans les débuts 80. Là.
Genre, ouais, ça, c'est 80. Pense qu'il est allé... Je pense pas qu'il est allé en Jamaïque. Je pense qu'il est allé en Martinique ou dans les Antilles françaises.
Okay.
En tout cas, ce serait une autre chose à...
La barrière de langue est plus facile à...
En Martinique, ouais,
à passer. Tu sais, peux-tu jouer avec plus de groove, s'il te plaît?
Plus de bass.
What?
Mais ouais, je me souviens qu'il y avait une. J'ai oublié c'est quoi le titre de la chanson, mais il y avait une chanson de cet album-là qui jouait à la radio.
Ouais, qui est un hit.
Ouais.
Reste l'album, j'ai aucune idée comment que ça sonne.
C'est vrai, ça. Ouais.
Mais, c'est spécial. Hey, on a une super bonne émission pour vous.
Hey, raconte-moi ça.
Ouais.
De quoi on parle?
De séries télévisées.
OK.
Oh.
De bandes dessinées.
Encore?
Puis on va. Ben, toujours. C'est toujours. Juste ça. C'est le menu quotidien. C'est mon pain quotidien.
Oui.
Ça, puis une toast de beurre de peanut. Avec ça, je peux survivre longtemps.
En fais-tu encore un spécial bouffe cette semaine?
Non, je me calme.
On s'arrête là.
Et, ben, c'est ça. Mais, attends, on parlait avant que l'émission commence de.
On parlait des spectacles.
Les musiciens.
On continue un peu les shows qu'on souhaite à tout le monde avoir pour 2024. Tu parlais de U2 off-air.
Ouais.
Puis la raison pourquoi beaucoup de monde sont pas allés, c'est parce qu'ils ont eu une résidence à Las Vegas. Puis beaucoup d'artistes après eux.
Compris.
ils ont compris où est-ce qu'il cache après 30 ans, 40 ans de carrière. Wu-Tang Clan va avoir quelques dates, je crois c'est en février et mars,
ouais.
Quelques dates à Vegas. Puis il y a un autre artiste, je viens de savoir.
Je sais que Cypress Hill l'ont fait l'année passée, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, il y a une couple d'années. ouais, ils ont fait une résidence, puis je pense que c'est au Hard Rock Café. Fait que j'étais vraiment surpris. Puis j'ai dit, ah yeah, c'est la première fois que je voyais un groupe en résidence rap là-bas. Parce que moi, la seule fois que je suis allé à Las Vegas, je trouvais ça super cool au House of Blues, que Santana était là en résidence. Un bout de temps. Puis c'est pas une grosse salle, là. C'était puis je dis, faut que j'aille le voir. J'essaie de convaincre mes amis. Puis c'était assez sold out. Puis je savais pas comment fonctionnaient, mettons, les scalpers là-bas. Mais j'étais vraiment impressionné parce que j'étais allé au House of Blues, puis c'est pas si grand que ça. Puis il était là comme 5 soirs semaine. Fait que c'est assez cool de voir un artiste en résidence. J'aurais aimé ça voir Cypress Hill qui jouait à l'extérieur. Puis là, ben, dans Sphere U2, aller voir l'espèce de grosse boule.
Non, j'ai vu des bonnes critiques audiovisuelles, puis sonores. Ils ont vraiment pris... comment tu dis, avantage de les acoustiques, j'imagine. C'est vraiment comme l'image là, qui va
partout,
sur le stage. C'est ça bouge avec les chansons. Il y a des photos genre, vraiment intéressantes. Je suis pas un gros fan de YouTube, honnêtement, mais je peux imaginer que l'expérience auditive, visuelle, doit être vraiment intéressant. YouTube a toujours été un groupe qui a toujours le poussé l'expérience de concert. Très peu de beaucoup de groupes, oui, mais U2 ont toujours été genre un des seuls groupes de rock qui ont poussé le visuel pour l'expérience de concert.
Mais c'est vrai qu'ils ont toujours été un peu avant-garde pour la scénographie.
Même la technologie dans le temps, de 90-95, c'était quoi qu'il y avait dans le temps, mais ils l'ont poussé à fond. Puis même après 35 ans, 40 ans de carrière.
Là, c'est la sphère. Mais il faut dire que c'est pas eux qui sont derrière la sphère. Je sais pas c'est qui. Là, c'est des gens riches de Las Vegas là, qui ont acheté une grosse bébelle vraiment impressionnante. Mais c'est quand même... moi, j'ai vu un petit documentaire making-of sur YouTube. Puis effectivement, ils étaient impliqués dès les débuts. Ben, pas dès les débuts, mais pendant que la sphère se construisait, ils étaient déjà en train de préparer le show.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, tout le show est fait pour dans le sens que tout le visuel sur la sphère est vraiment fait pour ce show-là, avec ces chansons-là dans tel ordre, tu sais. Fait qu'ils pourront pas
improviser
le line-up de cette liste. Fait que là, ils sont vraiment coincés avec
ils ont leur format.
15-20 chansons que c'est synchro avec le visuel.
Mais ils n'ont pas besoin d'être là de bord, c'est des decoys.
Ben, c'est un peu ça l'affaire. C'est parce que la scène est tellement. Ben, pas la scène, mais le visuel, l'écran sphérique est tellement immense. Puis t'as comme 15 000 spectateurs là-dedans, je sais pas pourquoi.
C'est ça que j'ai lu aussi.
15-18 000, de mon souvenir. Puis, fait que tu sais, la scène où les musiciens sont posés, tout en bas complètement.
Ouais.
Donc, ils sont tout petits.
Ouais.
Puis, tu portes pas tant attention aux musiciens parce que l'écran immense, qui est 360, il prend tout l'espace. Puis les gens sont complètement... Puis toute l'attention est là-dessus. Mais il y a des moments où ce que...
C'est plus intime.
Il y a des moments où ce que c'est plus intime, où ce que c'est moins grandiose, puis où est-ce qu'ils mettent ils filment les musiciens.
Ouais.
Donc c'est un peu comme dans un vrai show ordinaire où ce que les écrans, ils font juste mettre ce que tu vois sur scène. Ils filment les musiciens.
C'est la partie. Ça, c'est à Montréal aussi. Ils ont joué à Blue Bonnet, tu t'en rappelles? À l'extérieur.
Le 360.
Ouais, c'est vrai.
Araignée,
c'est ça.
Stade araignée qui ont fait.
Mais ils pourraient faire ça dans l'Orange Julep.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup de.
Au deuxième étage où que le jus.
il coule. Le plafond
va
coule.
On va savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Avec quoi ils font leur jus? Julep.
Hey, prenez un petit jus d'orange, ça va vous mettre sur le piton ce matin.
Mais c'est tricky avec le visuel. Comme,
c'est
il y a un moment que s'ils veulent avoir l'attention musicale, il faut qu'ils jouent quelque chose de moins, moins de distraction visuelle.
C'est vrai,
puis il y a des moments que, si c'est tranquille, t'as l'expérience visuelle. T'sais, c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est un autre département.
Ça doit être live, ça doit être quand même étourdissant. Parce que t'as pas
c'était au nosebleed, oui.
Si t'étais en haut dans le pit, là, tu commences à saigner du nez. Non, mais c'est vrai, puis si tu tombes, t'as l'impression que tu vas tomber, mais ça a l'air, le pit a l'air très, très haut.
Mm-hmm. Ouais.
Puis moi, il y a deux choses que j'ai remarquées, j'ai vu, le peu que j'ai vu, c'est que, premièrement, il y a un membre original qui est pas là, le drummer. Je me trompe pas. Je sais pas pourquoi il y a des problèmes.
Il y a une opération. Il revient supposément l'année prochaine.
OK. Fait qu'il manque un membre original de U2. Ça, c'est une chose. Et comment il s'appelle l'acteur qui joue dans Breaking Bad?
Bryan Cranston.
Exactement. Il était là.
Ah, oui.
Et moi, je m'attendais à ce qu'il va avoir des passes VIP. Non. Il est en haut dans le pit.
Ça sonne comme Bryan Cranston.
Puis le monde le filme, puis il regarde le show. Puis il est super haut, man. C'est comme, man, tu dois avoir les moyens, tu dois avoir les contacts pour être plus proche.
Mais je pense que c'était que c'est vraiment le show était vraiment sur l'air depuis longtemps. Okay. Puis que c'était comme impossible d'avoir.
Mais it's Mr. White!
Ouais, mais
il connaît Jesse. Vegas,
Mais Bryan Cranston, il est le genre de. On dirait que c'est le genre de personne qu'il va acheter son billet comme n'importe qui. Puis,
tu crois à ça, toi?
Moi, je pense que oui.
Ben moi, je pense.
Ça se peut.
Il a monté la tête. C'est pour ça qu'il est en haut. Là. Il y a moins d'oxygène en haut.
C'est un monsieur quand même charmant. Quand tu le vois, quand il parle, il est vraiment cool. Puis tu vois que j'ai acheté mon billet, comme tout le monde. Mais il oublie qu'il est Mr. White aussi.
Okay, ouais. Mais il n'est pas Danny Trejo. Il n'a pas été porté des tacos au scripteur de Hollywood. Ça, je suis sûr que non.
Non. Mais quand même, on va voir. S'il sort un documentaire ou que le concert complet du tout serait intéressant à voir.
Ben, sérieux, sans blague, sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont mis leur téléphone, qui ont filmé le trois quarts du show. Fait que j'ai vu le trois quarts du show sur YouTube. Okay. Mais c'est sûr que c'est filmé avec un téléphone. Fait que c'est pas du tout. Mais t'as le point de vue de quelqu'un qui est dans la foule, puis t'as plusieurs personnes qui ont mis leurs vidéos sur YouTube. Fait que t'as différents points de vue de différents endroits dans la foule. Fait que tu peux te faire une bonne idée.
Mm-hmm.
Puis sans blague, je pense que dans le pit en haut, dans cet auditorium-là, c'est presque mieux, je dirais.
Okay.
Parce que y a comme une grosse estrade, là, donc trois balcons, 18 000 personnes. Puis t'as un parterre. Mais les gens qui sont dans le parterre, qui sont près de la scène, sont près de la scène de YouTube avec Bono qui est devant toi. Mais eux sont comme trop en dessous. Fait que je sais pas à quel point c'est mieux.
Okay,
mais je pense que tu peux avoir une très bonne expérience même si tu es dans le pit en haut. Parce que c'est justement une très grosse boule d'écran géant. Mais c'est vraiment. C'est comme tu disais, César, c'est un autre niveau. Là. C'est pas un show de musique. C'est une expérience multimédia. C'est
ça le mot cherché.
Ouais, c'est pas un show de musique de YouTube. C'est autre chose. T'sais.
Ouais.
Lucien Francoeur.
Avec Lucien Francoeur encore.
Un documentaire. Au callback.
Ouais, le vinyle saute, on revient en arrière.
Ouais. Les bands comme U2, Nine Inch Nails, c'est des groupes que genre ils poussent le côté multimédia. C'est une expérience. Nine Inch Nails, je les ai vus deux fois, puis c'est deux expériences complètement différentes côté visuel, puis tu sais, t'embarques dans le jeu. C'est vraiment comme, ok, il y a ça, puis la musique joue avec, t'es jamais comme distracted pour une seconde, c'est vraiment comme bien sequenced, ça va pas comme t'as 4 minutes, tu regardes le visuel puis t'oublies que la musique il joue puis la musique est finie, c'est vraiment ils savent, c'est du monde que genre ils ont l'expérience avec multimédia, comment faire une expérience de 1h30 puis rendre tout comme ce que tu connais ce groupe-là puis l'augmenter genre comme le fanatisme de ce groupe,
mais le show vient comme pas prendre tout le spectacle. Ça vient, ça ajoute à la musique qui
est,
ça la met de l'avant puis ça la rajoute une couche.
D'où l'expression le spectacle est au quart de tour. Ça veut dire que tout est tight et tout chronométré à minute, même à seconde près.
Mm-hmm.
C'est...
Ouais.
En parlant de seconde près, j'ai-tu le temps de parler d'une bande dessinée?
Let's go, oui, vas-y.
OK. Devig, c'est l'auteur. Le dessinateur, celui qui fait les couleurs, ça s'appelle la bande dessinée parue sur Fluide Glacial, qui est une maison d'édition française. Ça s'appelle Les Mystérieuses Histoires du Major Burns. Et là, regardez bien ça, Burn Baby Burn. À Londres, en 1885, le Major Burns et son fidèle acolyte, pour pas dire alcoolique, le Dr. Wayne, repartent sur les routes du royaume afin de résoudre les plus noirs secrets de cette fin du 19e siècle britannique. La légende des chiens noirs, Black Dog, ça vous dit-tu quelque chose?
Non.
Le monstre du Loch Ness.
Ah oui, je le connais.
Oui.
Nessie.
Nessie, ou même l'homme rat.
Qui?
L'homme rat. Le duo le moins demandé d'Angleterre semble le plus à même de résoudre ces enquêtes improbables, dis-je. Ou peut-être sont-ils les seuls disponibles. Fait que c'est une bonne dose de chance, 2 cuillères de flegme et une pincée d'humour noir, très british, un peu à la Monty Python. Voilà la recette qui permettra... Ça, c'est moi, ça c'est de mon propre gré là, que je vous dis ça, là, que je compare ça au Monty Python.
Tu lis tes propres notes.
C'est ça. Voilà la recette qui permettra à nos deux héros de venir à bout, miraculeusement, des mystères les plus insolubles. Fait que là, le seul que vous avez reconnu qui est un grand mystère, c'est la fameuse bébite dans le fond de l'eau, le Loch Ness. Nous, on l'a à Manfred Magog en plus petit, mais eux, c'est la vraie affaire. It's the real thing. Fait que c'est toutes des mini-histoires de 2-3 pages qui essayent de façon plus ou moins loufoque de raconter ces légendes-là, urbaines ou pas, de l'Angleterre. Et là, sur la pochette, je te laisse la décrire. Ici, tu as le Mr. Burns, Major Burns en question qui est en train de lire. Et tu as son fidèle Watson qui est à ses pieds couché. C'est que c'est comme Tintin et Haddock, mais Haddock, c'est le gars là, qui est couché à ses pieds en petite boule au pied de son
ivre,
maître.
Avec le nez complètement rouge.
Rouge, le pif rouge, comme on dit, le brandy nose.
Comment tu qualifies ça? C'est l'illustration qui me fait penser à Hergé, veux pas? Là.
100%. Ouais. C'est Hergé, c'est Blake et Mortimer. Mais Blake et Mortimer, qui eux sont sérieux. Hergé aussi, il est sérieux l'école dans cette histoire. Là. Les Belges. Mais là, eux, ils jouent avec les standards de Hergé. Le dessin est pareil, là, la ligne fine, les mêmes genres de couleurs. On dirait qu'ils font même exprès, mais c'est tordu. Puis tout ça. La légende des Black Dogs, c'est comme 4 chiens errants là, qui apparaissent la nuit là, à la croisée des chemins. Là,
ah, OK, je connaissais pas.
Qui t'attaquent. Ben, Loch Ness, on sait c'est quoi. L'homme rat, j'avais jamais entendu ça. Ils se font dans une usine à poison à rats. Le poison, parce qu'en Angleterre, ils ont beaucoup de rats à cette époque-là. Arc. Et ils ont trouvé un poison pour les éliminer. Bon appétit tout le monde. Et l'homme rat, qui est mi-homme, mi-rat, tu sais, ça le dit, homme rat, ben lui, il veut défendre sa nation de rats et vole le poison. Vole le poison. Fait que
c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. Mais les deux personnages principaux, ça vaut le détour. Et le dessin est très cool parce que le gars, il est dans son appartement et dans le formol, il y a des doigts, il y a des yeux, il y a une petite tête de Jivaro, là, Shrunked Head, qui est dans le formol, puis il y a une espèce de.
D'Alien,
un peu à la Stranger Things. Fait que c'est de toute beauté. Je sais pas si c'est une série, mais il paraît qu'il y en a un autre. Fait que
là,
je suis très curieux.
Visuellement, comme ça, je l'ai pas lu, la BD, ouais. Major Burns. Mais est-ce que c'est grand public, genre comme les jeunes peuvent lire ça?
Moi, je dirais adolescent. Il y a pas de sex, drugs and rock and roll, mais il y a un côté... Le personnage
parce que c'est quand même
Wayne,
fluide glacial. Ça,
c'est fluide glacial, oui, c'est ça. Fait qu'il y a le côté alcoolique, il y a le côté... il tue du monde, il se moque des sirènes, le Loch Ness... il y a un petit côté crunchy, mais pas trop.
Okay.
Fait que tes ados de 14-15 ans...
Ils vont être contents.
Ils vont être contents.
Ils vont être excités un peu de voir un petit peu de violence puis de vulgarité, mais pas trop.
Pas trop. Ça okay. passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Pour okay. papa, ça
fait
passe.
Que c'est genre 16 ans et plus, mais
on donne le bénéfice du doute.
On montre ça à ses ados
ouais.
en cachette.
Ouais. Ils ont rien à faire là, en ce moment. Là. Ils n'ont pas d'études.
C'est pour ça que je pense.
Lisez
ça.
Une bonne bande dessinée puis créez une bande dessinée. Soyez les futurs Hergé.
On peut faire des bandes dessinées?
Oui.
C'est vrai?
Oui. C'est pas un papier. 8 c'est pas juste par 11. Tu dessines à la mine puis après ça, tu l'encres avec un Sharpie
mais
ou un autre.
C'est pas dessiné. Comment tu fais?
Tu apprends des cours de dessin.
Tu apprends à dessiner. Pas pendant la guerre. Ouais. Non, mais sans blague.
Mais c'est cool. Moi, ça se lit bien.
Non, ça a l'air drôle, en fait.
Ouais.
Ça a l'air vraiment t'sais, grand public, là, dans le sens que c'est 7 à 77 ans, mais comme tu dis, c'est peut-être plus ado et plus.
Là. Exact. C'est comme 15 ans. Puis tu sais, ça joue dans les codes de la culture populaire qu'on connaît. Tu sais, le monstre du Loch Ness, moi, ça m'a toujours fasciné. C'est une... Tu sais, les ovnis, toutes ces affaires-là, les légendes urbaines, c'est le fun de jouer là-dedans. Il y a tellement de choses à dire, puis ils se moquent de ça, finalement. Là. Ils font comme si c'est des vrais enquêteurs, mais c'est les plus poches de tout le territoire de l'Angleterre, puis on embarque à fond dans le délai. Et comme tu dis, c'est fluide glacial. Fluide glacial, il joue pas dans la dentelle.
Non, c'est ça. C'est 18 ans et plus, habituellement. Ouais, ouais. C'est humoristique et vulgaire.
Et vulgaire. Et tout ce qu'on aime.
Fluide glaciale. Donc, les mystérieuses histoires du Major Burns, de l'auteur Devig, D-E-V-I-G. C'est-tu un nom à l'envers comme RG? C'est comme...
Ça serait quoi, ça?
Vigé.
Ah, c'est Carré-Vigé. C'est un dessinateur qui habite au Carré-Vigé, je pense. Tout simplement.
Okay. Videuil.
Alors, le Major Burns, il nous reste plus de temps avant la pause.
Fait qu'on va aller en pause.
Alors, revenez-nous. Restez sur les ondes de CKUT. Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT. 90,
le 25 janvier, à 20h, la Cinémathèque québécoise présente Gashrat. Gashrat, c'est Kelly, Tara, Chelsea et Gabby. Gashrat remet les pendules à l'heure. Gashrat se souvient d'un Montréal disparu. Gashrat est la convergence d'esprits qui se méritent. Gashrat est un groupe de rock. Gashrat est de retour le temps d'un concert, pour un soir seulement. Procurez-vous vos billets dès maintenant au cinémathèque.qc.ca. Une co-présentation de la Cinémathèque québécoise et de CKUT.
CKUT Radio, 90.3 FM in Montreal.
Identity lost, never
is a war that once fought with a raised fist. Broken down like the rock, the blocks moving from stasis. Base is shaky and a fact lost. I'm looking for the remedy while searching for my family. Pops I never met, no moms I miss, I'll never forget. 9 long months of blood, tears and sweat. 9 long months of blood, tears and sweat. And 24 years of not knowing where I am. What I am, it's not what you made me. But what I was before you stole it from my motherland and raped me. What I am, it's not what you made me. It's not what you made me. Black Seminole taking your back and making you tremble when I start to recite the hype. Now listen to my riddle, should I say my fable? Let me take you back to my diary journal. Maybe you can see what I see. Back to 1840, the Ivory Coast, yeah. I used to hold the oracle sound under the tree. I used to kick the rhythm to the pound, but got lost track one day when I was in jungle trying to find my sway. I was looking for some timber, maybe with some old, or maybe with some mental drum communicator so I could demonstrate more of my rhetoric. I swept up in a mic check, and now I got a plantation in a whole nother nation. Didn't understand the syntax, I had to run north to the moss, to the north, and I found a way to get back. The abolition found me a way to make it to the symbol, and now I get a full of mic and make a triple. Another tribe in my native way of sway, I can overlay the first of phrase, but now I can't be the way I wanna be free. You wanna put me on a reservation, so I got to release. I run to Cali, to the valley, gotta pick the crops, and then I'll come up to Berkeley, and now I kick hip-hop, hip-hop to the sound of the rhythm of the soup, and now I capture the loop. This is what I am, learning with the truth. This is what I am, 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 what I am,
de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce musicale. Marc-André, peux-tu nous en dire plus? Non, je vais le dire d'abord. C'est le groupe Alphabet Soup. Miam, j'ai faim. Avec l'album Laying Low in the Cut. Alphabet Soup.
C'est quoi ta soupe préférée?
C'était la pièce numéro
8.
La track 8, la pièce qui s'appelle...
C'est la 4.
La track 4, on divise par deux. What I am.
What I am is what I am.
C'est quoi votre soupe favori?
Alphabet, la soupe au noix, avec bon. Des alphabets, des lettres.
On met des petits crackers dedans, des petits craquelins.
Soupe noix et poulet.
Ouais, soupe
noix. Ouais. Mais j'aime beaucoup la soupe minestrone aussi. Ça, ouais. C'est pour ça. Minestrone. Minestrone.
Soupe miso.
Soupe miso aussi, oui. C'est la base miso. L'album...
Sorti en 1995.
Hey, c'est pas nouveau, ça. Non. C'est pas du tout une nouveauté, les jeunes.
Attic Records.
Represent.
Alphabet Soup. 450, ça fait longtemps que je n'avais pas dit.
Mm-hmm.
C'est ça. Je fais un callback. C'est un disque que je trouvais souvent dans les bins chez CD-man, sur plein de petites boutiques qui faisaient la spécialité de revente de CD. CD, c'est le compact disque. C'est le grand vinyle qui était rapetissé au micro-ondes et qui est devenu en plastique. Et là, selon, on le voyait souvent dans les bins à une pièce, mais moi, ça me fâchait parce que c'est un très bon album. Et moi, s'il y aurait eu des bins à 10 piastres, ben, je l'aurais mis dans les bins à 10 piastres. Parce que c'est ça que ça vaut. C'est des gars, c'est dans la même époque que The Roots et tout ça, c'est des vrais instruments, c'est des vrais musiciens avec des MC et ils jamment sur des beats de jazz, de funk. Et c'est des tunes, là, pas de 2-3 minutes formatées. C'est le gros party pendant des... Comme on vient de faire jouer.
Oui, c'est vraiment très bon.
Des Alphabet Soup. En parlant de soupe... une soupe populaire, je vais-tu en livre? On voulait parler des groupes en résidence. vite à Las Vegas. On a déjà parlé, mais il y a le fameux Wu-Tang Clan qui sont en résidence cette année en 2024.
C'est vrai.
Février, mars.
Tu vas-tu, toi?
Non, j'ai déjà vu de Wu-Tang, actually, deux fois à Montréal. Mais j'imagine que c'est un gros milestone pour le groupe, t'sais, surtout pour presque 30 ans. Ouais, s'ils vont célébrer, pas mal cette année, c'était leur 30 ans de Enter the Wu-Tang, 36 Chambers.
Le classique. Le classique.
Ils ont fait leur tour, mais je pense que l'année prochaine, ça va vraiment comme un autre anniversaire de plus pour l'album, puis ils vont faire ça à Las Vegas. Album classique que tout le monde connaît. Je pense pas qu'il y a un seul fan de rap qui va dire qu'il aime pas le Wu-Tang, à moins qu'il a 15 ans et qu'il connaît pas ça. Mais album influençable qui a vraiment tiré genre la trajectoire du hip-hop pour une seconde, puis après ça, tout le monde a embarqué sur le son bru, hardcore de New York, Staten Island, 9MCs comme on le connaît,
ouais.
Et plus. Fait que ça va être intéressant de voir qu'à Vegas, ils vont pouvoir faire beaucoup de chansons ensemble, à ce que j'espère, parce qu'il y a toujours un membre qui manque.
Ouais.
Puis, comme tu disais, on parlait à faire Young Dirty Bastard, qui représente son père, qui est très accueilli par le groupe. Comme on avait dit, ils sont toutes famille. Quelques-uns sont cousins ou des beaux-frères, affaires de même.
Bonded by blood.
Mais qu'est-ce qu'on peut dire de Young Dirty Bastard? Des beaux commentaires depuis qu'il a pris sa place dans le groupe pour les concerts, pour faire l'apport des raps de son père. Que même le premier album solo de ODB, c'est un classique.
New York Zoo.
Return to the 36 Chambers. Son flow, c'est très improvisé, on the spot. RZA, il a dit une couple de fois dans l'interview que genre ses raps étaient même pas écrits des fois. C'était vraiment comme un riff. Comme les spoken words, genre dans les concerts. Okay. Ils vont juste dire qu'est-ce qui ça leur vient dans leur tête. Mais lui, il y avait un genre de freestyle de même que ça lui sort. Un peu partout, puis c'est un peu symbolique à le Drunken Style.
Shaolin, tu sais. Drunk
Master, c'est comme tu vois pas venir les punches, mais ses raps, c'était un peu de même. Tu voyais pas où est-ce que ça s'en allait, mais ça faisait du sens, puis il y avait juste lui qui pouvait le faire. Comme il dit, there's no father to his style, that's why he's the old dirty bass.
Il est légitime. Moi, je dis que personne peut prendre la place de Old Dirty Bastard à part son fils. S'il est du calibre et du niveau de son père, et le peu que j'ai vu, je dirais oui. Et là, je change de sujet. Sublime, pendant longtemps, c'était Rome with Sublime. Ils ont eu des poursuites parce qu'ils prenaient le nom de Sublime puis tout ça. Puis ça marchait plus ou moins. Mais là, Back from Nowhere, de je sais pas où, je savais qu'il y avait un fils parce que dans un des albums, il tient son fils dans ses bras. C'est son fils qui continue avec les deux membres originaux à bass pour drum, les OG. Et c'est lui qui chante comme papa. Il ressemble un peu. Il joue de la guitare.
Nice.
Qui tu veux de mieux? Tu peux pas dire ils n'ont pas le droit de s'appeler Sublime, il n'a pas le droit de c'était son père. Je veux dire, ça coule dans l'ADN de génération en génération. Ça peut sauter une génération, ça se peut qu'il n'y a pas le talent, mais quand Young Dirty Bastard là, quand le fils à Bradley, je ne me rappelle pas son nom, en tout cas Sublime, même chose.
Ouais.
Moi, ça passe.
Pour Sublime, c'est nice pour fermer un peu la boucle de la tragédie de la sortie de leur album en 96, qu'il est décédé avant la sortie.
Avant le hit.
Quand tu dis cette histoire-là, c'est beau. Quand tu connais l'histoire de ce groupe, c'est beau comment ils peuvent finalement promote the album. Ils n'ont pas eu la chance dans un sens. Fait que
30 ans plus tard.
30 ans plus tard. Fait que c'est nice à... C'est une belle histoire.
C'est Hollywood.
C'est Amérique.
Nelson commence à écrire le scénario. On va aller vendre ça. Il manque de scénario. C'est Hollywood. On y va.
Mm-hmm.
Ça va être l'histoire de Sublime. C'est An American Story.
An American Story,
Los Angeles, aux États-Unis. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus?
C'est tout le monde root pour l'underdog. Puis Sublime, je pense que c'était le groupe underdog pour le... C'est quoi? C'est ska, me semble, non? Le
style, ouais, ska punk. Ska punk, ouais. C'est du skunk, ouais.
Ska punk. Ska funk. Puis, ouais, non, non, c'est cool.
Ah, c'était Brooklyn Zoo, je l'ai dit tout à l'heure.
En Brooklyn Zoo.
De le premier... Ben, en tout cas, un
Brooklyn Zoo!
C'est fou.
Ah, non.
Avec
ouais.
la carte de Old Dirty Bastard pour les food coupons. Hein. Tu peux pas avoir plus OG que ça, là, tu sais.
Ah non, cet album-là, il... Ouais. Il sacoche intense. La production est peak. C'était genre le Golden Age de Wu-Tang avec la production très.
C'est là, c'était low profile.
Lo-fi.
Lo-fi. 36 Chambers, je l'écoute après d'autres albums. Puis le son, il est en bas. Tu sais, je parle là, de la copie quand elle est sortie. Là. Ouais. Je parle pas des remix. Je parle pas des extended versions.
Il vaut même pas la peine de remaster. Il est parfait comment il sonne. C'est très punk.
Ouais, c'est très punk. C'est très,
très
bas,
punk parce très... que même 36 Chambers, Tikal, The Method Man. Jizza, Liquid Sword, c'est très low-fi, c'est parfait. C'est le seul cas que t'as pas besoin d'un remaster de l'album. C'est un produit de l'époque que genre il est timeless à ce point-ci. C'était unique, les samples qui sont utilisés, c'était nouveau. C'est vraiment derail la trajectoire. Comme le jazz, ça crée un autre genre de hip-hop que beaucoup de monde ils ont essayé de copier après ça. Puis même quand ils ont sorti Wu-Tang Forever, RZA était un des premiers.
L'album double.
Un des seuls meilleurs albums doubles qui est en débat, on peut dire, Notorious B.I.G. Tupac. Mais Wu-Tang, c'était un des groupes que, genre, le double album est comme. Il est long, mais il y a du bon contenu. Mais ce que je voulais dire, c'est que RZA, la production de RZA dans Wu-Tang Forever, c'est lui qui a influencé beaucoup d'artistes en. Faisant le high pitch sample, tu les voix aiguës comme Chipmunk.
Ok. Okay.
C'était 97, mais si tu regardes un peu le hip-hop en 2004-2006, surtout c'est comme ça. Avec Kanye West et d'autres artistes, ouais. Ils ont copié ce style-là, puis ils ont tout dit c'est RZA qui a commencé ça en premier.
Ok.
Fait que tu sais, RZA, il a marqué deux fois dans l'histoire du hip-hop que genre le monde n'a pas compris, mais 10 ans plus tard, le monde y a embarqué dessus. Puis c'est pour ça que RZA, il réapparaît dans des productions avec Kanye et Zafama, parce que c'est...
Précurseur.
Le précurseur, disons. Fait que, tu sais, ça... Il a marqué son histoire deux fois, puis ça a influencé une génération 10 ans plus tard, puis regarde ça, ça a parti de Kanye, ça a créé des Kid Cudi, des Travis Scott, ça a parti des branches et des branches et des branches après ça... Hip-hop 50.
Yeah, hey, 50 ans du hip-hop, on le répète, on va le répéter longtemps et longtemps.
Puis on parlait de Wu-Tang parce qu'il faut aller les voir à Las Vegas.
Ouais. Les boys, on s'en va à
ça
Vegas.
Ça fait bizarre, non?
Ça va faire le lendemain de la veille. Ben, c'est ça. Ben, du rap, ben, c'est à part eux et Cypress Hill, c'est les premiers, je pense. Moi, quand je pense à Las Vegas, les affaires en résidence, c'est Mariah Carey, Céline Dion,
et
Elvis Presley, et puis le Cirque du Soleil.
Mais là, tu vas pouvoir voir Wu-Tang Clan en
That's
résidence.
C'est bizarre.
À ceux qui
pensez-vous que c'est le premier groupe rap en résidence à...
Cypress Hill, Hard Rock Café.
Cypress Hill, ils l'ont fait.
Je pense. Ouais.
C'est-tu la première fois qu'il y avait un groupe de rap?
Moi, je pense que oui.
Ouais.
Faudrait vérifier.
Hein.
Mais il n'y en a pas eu gros, en tout cas. T'sais.
Non, c'est ça.
Puis il n'y a pas des bandes qui ont 30 ans de trajectoire non plus.
Groupe de hip-hop, c'est ça l'affaire. C'est pas beaucoup que, tu sais, ils sont encore là. Puis la longévité. C'est surprenant comme Wu-Tang sont 9-10 gars puis ils sont encore en train de faire des shows. Tu sais, mettre tout en même page à la même date. Des adultes qui ont des enfants puis ils sont peut-être des grands-papas puis c'est du temps qu'ils doivent mettre dans leur agenda.
Puis ils font tout du cinéma à Star, Method Man, RZA, ils écrivent des scénarios, Fist of... Anyway. Hey, on peut tout... Merci. À part César, il n'y a personne qui en sait plus de la musique en général, mais si vous voulez en savoir plus, parce que César, il n'est pas toujours disponible, il travaille, il a une femme, il a des projets, il écoute beaucoup de vinyle, mais il y a un livre qui était sorti par Lazou puis Olivier Cachin, c'est deux Français qui ont fait l'encyclopédie du rap. Et là, je trouve ça très drôle, c'est Flammarion Jeunesse. ça serait comme si ça serait de la littérature jeunesse, parce que t'as du texte et t'as des dessins. Et là, c'est l'encyclopédie du rap, ça s'appelle Rap Story. Tu sais, les Français, eux autres, Weekend, ils connaissent pas. Tu sais, Parking, ben, Rap Story. Et il y a une préface de Soprano, t'as des interviews avec, des entrevues, hein. Des entrevues, moi, je parle à la Marseille. Joey Starr, Big Flo et Oli. Et là, qu'est-ce qui est merveilleux de tout ça? C'est, en gros, t'as la genèse du rap aux États-Unis. On commence dans les années 70, 73, avec la naissance du hip-hop, les block parties, comme ils disent.
Le party de Kool Herc.
Oui, puis là, t'as les Rappers Delight.
79.
Après ça, The Message avec Grandmaster Flash, les années 82. Fait que là, tu commences, et là, en parallèle, il explique qu'en France, il y a la première émission hip-hop à la télé, en 84. T'as Doc Gynico qui parle de comment c'était à cette époque-là. T'as tous les... C'est l'âge d'or du rap. Fait que ça va par chapitre. Là, après, tu tombes dans Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy, le gangster rap avec NWA. T'as, en 93, le groupe qu'on parle en résidence, Wu-Tang Clan, Ain't Nothing to Fuck With, le retour de New York, parce que c'était beaucoup le West Coast gangster rap. Ouais. Et là, eux autres sont arrivés en 93 puis ils ont remis New York sur la map.
Ouais, c'est comme une pendule qui commence par New York, puis le gangster rap en 86-87, c'est plus NWA qui a vraiment... c'était les Sex Pistols du rap, ouais, disons, parce que même avant ça, il y avait Ice-T, Schoolie D, qui est le premier rapper de gangster rap. Puis NWA vraiment comme... C'est une tornade. Ouais. Puis après ça, il y a les albums solo de la clique de Ruthless Records. Le premier album de solo de Eazy-E.
Ice Cube.
Puis Ice Cube, c'est après, quand il s'est séparé. Mais je voulais dire de D.O.C. C'est un album très influençable du West Coast. No One Can Do It Better. En tout cas, toute la saga du West Coast, que ça s'est tout effondré une fois que Ice Cube est parti, puis que c'est jusqu'en 92-93 que Wu-Tang, Nas, ils ont vraiment pris la relève pour remonter le rap new-yorkais. Puis après ça, c'est un back and forth, comme on reconnaît là, toute l'histoire du East Coast, West Coast,
la rivalité
sonore et des rappers. Et que maintenant, c'est international, puis il n'y a plus de région, c'est global, comme
le
on
rap
le connaît.
Est global, exactement. Ouais, ça, c'est peut-être la partie qui manque, justement. Il ne parle pas du rap fort qui se fait au Brésil, il ne parle pas du rap fort qui se fait au Chili, il ne parle pas de la scène québécoise. Hey, come on, le rap au Québec, il est fort. Mais c'est vraiment, vraiment cool. Tu sais, on parle de la radio Skyrock qui a tout changé en 95 parce que à la radio... t'avais du rap qui jouait. T'avais l'émission Rap Attitude. T'avais MC Solar, t'avais les NTM, t'avais DJ Dynasty qu'on a déjà parlé, qui joue dans le film sur NTM Supreme, qui est sur Netflix en passant.
La télésérie
sur le groupe Supreme NTM qui est à voir absolument.
Le monde de demain.
Hein? Le monde de demain, merci. Fait que c'est vraiment cool. Et là, ça va jusqu'à presque aujourd'hui. Là, on parle de 2010 à 2013. Et là, les Français, une année, se sont presque fait voler, l'exclusivité du rap français. C'est que les Belges, les petits cousins belges à côté, que eux, des fois, ils les traitent comme des newfies, excusez l'expression, entre guillemets. Ben là, t'as toute cette gang-là qui viennent de la Belgique. Et là, comme tu disais, Nelson, tout à l'heure, c'est bizarre que tu nommes cette personne-là, mais le fameux Stromae est considéré au début, même si c'est presque du spoken word, whatever, à du rap. Et il y en a d'autres qui suivent, là, que moi, j'avoue que les Belges, je savais pas qu'ils étaient aussi forts. Et là, on retourne en France, mais il y a du rap dans l'Hexagone qui se fait. Et les premiers clashs aussi, tu sais, le Bronx, t'as notre ami KRS-One,
MC Shan.
Fait que c'est de toute beauté. Ils parlent justement du beef, la guerre. Eux, ils appellent ça la guerre New York versus Los Angeles, qui commence en 95. T'as naturellement l'ange noir de la West Coast, la mort de Tupac. Après ça, Bang Bang avec Notorious B.I.G. Et là, on va jusqu'à aujourd'hui. On parle de Marseille Story avec la Funky Family, avec Soprano, avec I Am. je danse le Mia. Et c'est de toute beauté. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que tu as des dessins. Et les dessins sont... C'est comme si quelqu'un qui dessine super bien dans ses cahiers à l'école, au lieu d'étudier, il dessine son meilleur rappeur, il dessine son meilleur MC, il colore avec des crayons Prismacolor, il met du feutre et c'est très hip-hop. Et tu as tout le temps des top 15 de à Marseille, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. T'as Akhenaton, l'Americano que je voulais jouer, tu veux faire l'Americano. T'as I Am, t'as La Funky Family, Freeman, Ralph Luciano. Fait que c'est un super de beau livre. Il parle du cinéma et le hip-hop, la Black Sportation des années 70. Ben là, t'as Ice-T et Ice Cube dans New Jack City, Boys in the Hood, qui est un classique de Mr. Singleton, fait qui parle de East LA, tout ça. Puis là, après ça, t'as les Menace to Society. Mais là, après ça, les films, on va dire, gangsters, ont laissé leur place à des films rigolos. Next Friday avec Ice Cube.
Friday,
puis après c'était t'as Next Friday.
J'ai sauté un vendredi. Des frères Wayans, Don't Be a Menace to Society.
Ah oui. Qui était une parodie de
Boys in the Hood.
Menace
to Society, puis etc.
Ouais, non, Menace, ouais, c'est ça, ouais.
T'as 8 Miles, on parle naturellement de Eminem. Fait super livre. Si vous ne saviez pas qu'est-ce acheter à Noël, au jour de l'an, à des jeunes tripeux de rap, ben vous achetez ce livre-là. Il est super bien fait. Les dessins s'accrochent parce que l'auteur est un grand spécialiste, ce qu'ils disent là, à Lando, quatrième de couverture, c'est un grand spécialiste du hip-hop et de la musique afro-américaine, célèbre les 50 ans du rap avec les illustrations de Lazou. Il retrace son histoire avec les témoignages d'artistes, parce qu'il va interviewer aussi les artistes français, pas américains, mais français, qui sont plus accessibles pour lui. Et là, tu as Doc Gynico qui dit comment c'était back in the days. Fait que 10 pour le 50e anniversaire, c'est le livre à avoir.
Excellent.
C'est cool,
ça. Très, très cool.
Hey, on y va-tu?
On y va-tu en rap? Avant la fin de l'émission? Il nous reste un petit 4 minutes.
OK. Je pèse sur le piton.
I beat the pot like those who beat Mike and Jermaine. What came my light, what came my thought, but they smoking the same. I break a 50 on blunts and get my smoke in the chain. The nigga flexing BBS every stone in the chain. Gold body, my jeweler, he black mummy me. I be y'all in these bitches, tummy like flat tummy tea. Crackers came to Africa, rabbit rapper, they rummage me. America was the name of they fucking company. Stacking niggas like cargo over and under me. Pick cotton bales and a coca leaf off the money tree. Niggas won't let you live in peace, but love to see you rest in peace. Smoking, popping and drinking on the rest, they got the best in me. I'm chopping it up on the table, cause run no label, gon' invest in me. These niggas around your way, but when they gon' sit their time in the bed with me. Eventually, when I got indicted, I took a minus. Niggas that I fuck with went on hiatus, so I decided I should make a couple decisions like Sean May. A Peter Denae, I eat go looking hoes in a Sprinter thing. Fucking with the cane. Black nigga, Jack Tripper, pack flipper. Step out of the kitchen and step in the booth and drop heat on these rap niggas. Without a cosign, you probably be filling my grocery bags, nigga. Poison flow, I send opponents from bitches to rags, nigga. Gold body, my jeweler, he black mummy, man. I be yelling these bitches, stomach like flat tummy tea. Crackers came to Africa, rabbit raffled and rummaged me. America was the name of they fucking company. Gold body, my jeweler, he black mummy me. I be yelling these bitches, stomach like flat tummy tea. Crackers came to Africa, rabbit raffled and rummaged me. America was the name of they fucking company.
I'll go right.
Changing me whiplash, my neck glass. Save a little tax off the package, pay my connect fast. Bellagio with quattro hoes, stack like connect foes. Niggas don't know no land of fine art, but got all the retros. Obama can't make the law retroactive, what the fuck happened? Congress cock blocking niggas from coming home to their family. If you lucky when he left out of office, you got a pardon over time cut. Soft for their heart, you fucked up regardless, made my mind up. Did incarceration my destination, I would wind up. Addicted to medication, just poured another line up. Overdose with a styrofoam cup, how they gon' find us? Slay movies every year, yeah, the master gon' remind us. If we don't take it, we don't deserve it back. In 6,000 years to ran up, the kings of the earth is back. Supreme mathematics, I'm on the right course. Took the sword and knocked white Jesus off of that white horse. Yeah, my nigga, I'm on the right course. Took the sword and knocked white Jesus off of that white horse. Fuck Spikey mostly show Malcolm on coke and white horse. He did the shit so we can get funding up from the white boys. White girl magic, cocaine and white horse. I was in Joliet serving heroin to them white boys. Top five rapper alive, and that's on Vice Lord. Took the sword and knocked white Jesus off of that white horse. Damn, somebody calling me. Fuck. Damn, hey, people.
Vous êtes de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT. 90,3 FM, il reste 60 secondes avant de la fin de l'émission. César, tu nous fais ton top de l'année 2023, s'il te plaît, maintenant.
Oh, ben, je vais dire 5. Sur numéro 5 album, Sampha La High. Je vous recommande fortement d'écouter un album expérimental électronique. Ça fait 5 ans qu'on attend pour son album. Leon Thomas, Electric Dust, numéro 4. Très cool, R&B, soulful, sapin, c'est groovy. Donner une chance, c'est quelqu'un qui a écrit pendant très longtemps des hits. C'est intéressant à voir. Ryuichi Sakamoto, 12, son dernier album avant qu'il décède. Un côté très sombre au début, puis là, jusqu'à on s'approche à la fin de 2021, c'est plus piano, plus beaucoup d'espoir. Fait que très beau album à écouter. Youssef Days, Black Classical Music, numéro 2. Excellent A à Z, qui s'en va un peu partout avec son groupe, avec un bon backup band, très excellent, musicalité très fort comme équipe. Et numéro 1, yeah. Roger Kuriman, qu'on a joué il y a quelques mois, juste excellent. C'est du MPB,
ouais.
MPB avec Arthur Verocay qui fait les strings avec le label de monsieur de Menahan Street Band. C'est juste excellent, c'est juste très beau. Si vous vous sentez très bas moralement ou que ça va mal dans la vie, écoutez Kuriman.
De Roger.
Mais
Roger.
Si vous écoutez CKUT, ça va jamais mal, Roger.
On dit bonne année à tout le monde.
Bonne année.
Restez sur les ondes de CKUT.
À la prochaine.
Ciao.
Esa gente, siguen escuchando CKUT 90.3 FM. Mi nombre es Boca Floja de Quilombo Arte. Sólido, es la guaracha de un camacho. De este macho inquisidor de su gazpacho melancólico. El buen salvaje de la turma, capaz de la suma. Comunidad se entreteje y ahora pulula. Aprieta mano que el gusano no bendice.
Louis d'Afrique presents Searching for Goya, a new flamenco production from Soledad Barrio and Noche Flamenca, an exceptional performance in Montreal. 9 world-class dancers, singers, and musicians revive the spirit of Goya. For one night only on Thursday, January 18th at Théâtre Maisonneuve. Reserve your seats now. For more info, visit placedesailles.com.
Vous écoutez CKUT 90.3 FM à Montréal et vous êtes avec Bogad. Yay!
Ay Dios mío, que viva Montreal, la montaña, belleza natural, del oeste hasta el este, para el sur y los barrios del norte.
We are now tuning into the universe of Latin Music Mondays. I am the Most High, and I am in this moment with the two members of the company Soledad Barrio y Noche Flamenca. We are exactly